Radio Kapi. Les pays des Grands Lacs sont de mauvais élèves en matière de liberté de presse, selon le rapport de l'ONG RSF dans ce document publié hier jeudi à Kinshasa. L'organisation révèle qu'au cours des 10 dernières années, près de 500 journalistes ont été détenus dans la région, dont la moitié en RDC en raison de leur travail. Plusieurs véhicules de marchandises ainsi que de motos et leurs passagers en provenance de Massissi pour Goma bloqués depuis quelques jours. Conséquence des éboulements des terres survenus dans les Massissi à la suite de fortes pluies diluviennes qui s'abattent chaque jour dans la région. Modeste Bahati Lukwebo a été destitué de son poste de président national et autorité morale de l'FDC par un groupe de cadres du parti le mercredi 25 mars 2026. Par la même occasion, Otto Baizi a pris les rênes pour gérer la transition jusqu'au prochain congrès. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont analysé cette situation qui prévaut au sein de ces partis politiques. Vous allez le suivre tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. L'organisation Reporters sans frontières vient de dévoiler son rapport sur les médias dans la région des Grands Lacs. Les pays des Grands Lacs restent des mauvais élèves en matière de liberté des presse, note l'ONG RSF dans ce document publié hier jeudi à Kinshasa. L'organisation révèle qu'au cours des 10 dernières années, près de 500 journalistes ont été détenus dans la région, dont la moitié en RDC en raison de leur travail. Ainsi, les directeurs du bureau Afrique des Reporters sans frontières recommande aux États de cette sous-région de garantir la sécurité des journalistes en mettant en place des mécanismes indépendants de protection dotés de systèmes d'alerte. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans son rapport de 6 pages, l'ONG Reporters sans frontières note que sur les 10 dernières années, 10 journalistes ont été tués et 5 autres ont disparu dans l'exercice de leur métier dans la région des Grands Lacs. Cette organisation déplore également qu'au moins 33 radios communautaires aient subi des pillages ou des suspensions depuis janvier 2024 dans la province du Nord Kivu. RSF reproche aux autorités congolaises via l'organe de régulation des médias d'exercer des pressions sur les traitements médiatiques du conflit à l'échelle nationale. Cette ONG recommande aux États des Grands Lacs de mettre fin aux attaques physiques et aux menaces contre les journalistes ainsi que d'ouvrir systématiquement des enquêtes en cas d'atteinte visant les professionnels des médias. Dans ces documents, les gouvernements de la région sont également encouragés à faciliter le travail des correspondants internationaux et indépendants en rendant les procédures d'accréditation plus transparentes. Pour sa part, le directeur du bureau Afrique du RSF plaide pour la révision des lois pénales et des réglementations sur la presse afin de garantir que les journalistes puissent exercer leur métier sans risque de poursuites arbitraires.
Sécurité encore, retour ici à Kinshasa avec cette fois l'interpellation des évêques catholiques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ils appellent au dialogue, à la paix sociale et à la défense des valeurs humaines. Dans une déclaration publiée hier jeudi à Kinshasa, à l'issue de la session extraordinaire de l'Assemblée plénière, tenue du 23 au 25 mars dans la capitale, les prélats dénoncent une situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupante. Ils appellent au soutien au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs qu'il présente comme une initiative éthique et sociale distincte de toute simple négociation politique. On écoute Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général de la CENCO, joint par Grace Hamzati.
L'Église doit lever la voix là où il y a injustice, là où la population souffre. Et ils ont dit que, au regard de la situation sécuritaire actuelle avec ses conséquences sur le plan économique, politique et social, ils ne peuvent pas se taire. Et voilà pourquoi ils réaffirment leur conviction selon laquelle le dialogue est supérieur à la guerre. La guerre est l'échec de la politique, la guerre est un échec de l'humanité. Voilà pourquoi ils insistent sur la pertinence de leur initiative à ne surtout pas confondre avec un dialogue qui vise simplement le partage du pouvoir. Les évêques n'ont pas parlé du changement ou révision de la Constitution, simplement parce que leur position est déjà connue là-dessus. pour les évêques, le principe de la révision est constitutionnel et la constitution établit, détermine les conditions de cette révision. Mais les évêques insistent sur l'opportunité et au regard de l'environnement sécuritaire actuel, ils sont convaincus que aller dans cette situation-là, c'est aggraver la crise.
Plusieurs véhicules de marchandises ainsi que de motos et leurs passagers en provenance de Masisi pour Goma, bloqués depuis mercredi à Louchébéré et Katalé dans le territoire de Masisi. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Conséquence des éboulements des terres survenus dans ces deux localités à la suite des fortes pluies diluviennes qui s'abattent chaque jour dans la région, affirment des sources locales. Du coup, le trafic sur l'axe routier Masisi-Centre-Goma est suspendu depuis mercredi. Plus de détails avec Bernardine Diambo.
Des sources concordantes dans la zone affirment que ces éboulements des terres se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi après de fortes pluies qui se sont abattues dans la région, rendant ainsi la circulation impraticable. Selon des sources locales, à Katalé, plusieurs véhicules avec leurs marchandises et motos sont bloqués. À Louchébéré, les motos et leurs passagers qui se rendaient à Goma sont également bloqués. Cette interruption de trafic affecte directement les échanges entre Masisi et Goma. Les territoires de Masisi approvisionnent la ville de Goma en produits vivriers, notamment la pomme de terre, la banane plantée ou encore les haricots. Goma, en retour, approvisionne Masisi en produits de première nécessité. Les retards dans l'acheminement des marchandises pourraient entraîner une hausse des prix sur les marchés locaux si la situation perdure. La société civile de Masisi, quant à elle, souligne que cette situation affecte la population de Masisi qui n'est vue que des activités champêtres et lance un appel pour que les travaux d'évacuation des terres soient rapidement lancés afin de rétablir la circulation. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Et puis, au lendemain de la suspension du trafic sur la route nationale numéro 1 au niveau de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu, le gouvernement a répondu aux cris de détresse de la société civile locale. Arrivé sur les lieux mercredi, le ministre des Infrastructures a immédiatement lancé des travaux d'urgence afin de sauver cette route d'approvisionnement et de protéger les réseaux de la Société nationale d'électricité, SNEL. Une décision qui réjouit évidemment la population de Kikwit. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 24 au 25 mars sur la ville de Kikwiti dans la province de Kwilu a provoqué une avancée brutale de la tête d'érosion de Wazabanga coupant en deux la route nationale numéro 1. Dès son arrivée sur les sites, le ministre des Infrastructures a constaté l'ampleur des dégâts. Il a convoqué une réunion d'urgence avant d'ordonner le lancement immédiat des travaux pour stopper la progression de cette érosion. Selon John Banza, l'objectif est de préserver cette route d'importance capitale et de protéger les réseaux de la SNEL pour éviter une coupure générale d'électricité dans la ville. John Banzalunda.
J'ai dû interrompre ma participation aux travaux de la 13e conférence des gouverneurs pour venir prendre en charge ces travaux d'extrême urgence.
À cette occasion, ces membres du gouvernement appelaient la population de Kikwit à l'apaisement, affirmant que le gouvernement central a déjà tout mis en œuvre pour maîtriser cette situation.
À la population de Kikwit, soit être apaisée, et nous allons juguler cette érosion.
Cette intervention rapide du gouvernement a rassuré la population locale qui ne souhaite que voir ses travaux confiés à l'entreprise Safrimex se poursuivre avec célérité.
Suspension depuis mercredi de la grève des travailleurs du secteur du commerce après deux jours de tensions sociales à Kinshasa. Selon les syndicats de ces travailleurs, cette décision fait suite à deux avancées majeures. L'envoi par le ministre du Travail d'une mission d'inspection chargée de contrôler les employeurs récalcitrants ainsi que l'engagement de certains d'entre eux à appliquer le SMIG d'ici à la fin du mois avec la signature de protocoles d'accord. L'intersyndicale indique toutefois rester vigilante quant au respect effectif de ces engagements. Jean Makayanga l'a confirmé au micro de Nancy Tambo.
C'est-à-dire, Son Excellence Monsieur le ministre du Travail a dépêché une équipe d'inspection pour contrôler les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas payer les SMIG. Aussi, nous avons constaté la bonne foi de certains employeurs qui ont accepté volontairement d'appliquer le SMIG, de payer à la fin de ce mois le SMIG. Et ils ont signé avec nous quelques protocoles d'accord. C'est sur ces deux points la clé que l'intersyndicale a suspendu la grève
à partir d'hier à 12h.
Nous sommes à l'inspection de travail. L'inspection a dit qu'il va contrôler. Nous allons voir comment l'inspection va contrôler. Nous allons leur donner les entreprises récalcitrantes, les Chinois qui ne veulent pas payer et les Indiens et qui doivent appliquer les amendes et mettre fin à la sous-traitance, à ce job noir qui est en train de nuire et faire appliquer le SMIC décret signé par le Premier ministre. Si l'inspection de travail ne fait pas son travail et si on n'applique pas le SMIC, une grève, elle est suspendue. Nous le verrons la situation de la grève. C'est tout à fait normal, c'est notre droit.
Entre-temps, à Beni, dans la province du Nord Kivu, de nombreux jeunes se tournent vers des petits métiers faute d'emploi. Une débrouillardise qui leur permet de subvenir à leurs besoins dans un contexte où le chômage expose certains au risque de recrutement par des groupes armés. Jacqueline Vivouya est allée à leur rencontre. Voici son reportage.
Vente des crédits de recharge téléphonique, commerce de vêtements, réparation d'appareils électroniques ou encore peinture artistique, tels sont quelques-uns de métiers exercés par ces jeunes en quête de survie. Rencontrés au quartier Tamende dans la commune de Mulekera, ces jeunes artistes peintres expliquent ce qui le motive à poursuivre son activité.
Ce qui me motive de continuer avec ce travail, c'est d'abord qu'il me permet de me sentir indépendant. Ensuite, il n'y a pas d'emploi actuellement dans notre pays. Donc, nous avons compris que les travaux manuels sont les plus accessibles pour nous.
Au centre commercial de Matongé, cette jeune vendeuse de jus nourrit de grandes ambitions.
Ces commerces m'aident à subvenir à mes besoins, même si ce n'est pas suffisant. J'ai continué à travailler car mon objectif est d'évoluer et de devenir un jour une grande commerçante.
Entre débrouillardise et espoir, ces jeunes de Beni incarnent une génération qui refuse de baisser les bras face au manque d'emploi. Beni, Jacqueline Vivouya pour Radio Okapi.
L'eau, c'est la vie, dit-on, mais elle peut aussi devenir un véritable outil de réconciliation entre les communautés. C'est le message lancé ce jeudi par le vice-président du Forum congolais de la société civile du bassin du Nil, en marge d'un atelier organisé à l'occasion de la célébration des journées internationales du Nil et de l'eau potable, commémorées respectivement le 22 février et le 22 mars de chaque année. Dieudonné Lossa déplore que, dans certaines zones de l'Ituri, le conflit lié à l'accès à l'eau soit parfois à l'origine de nouvelles violences. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'entrée de jeu, cette organisation regrette que malgré les efforts fournis par les partenaires ainsi que les acteurs privés, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur. Plusieurs personnes, en particulier les plus démunies, parmi lesquelles de nombreux déplacés, peinent à se procurer cette denrée vitale. Les femmes et les jeunes payent parfois de leur vie en allant chercher de l'eau. C'est notamment le cas dans les territoires de Djougou. Dans d'autres milieux, l'eau devient une source de conflit, entraînant parfois des violences. Face à cette réalité, Dieudonné Lossa plaide pour l'implication de tous pour faire de l'eau un facteur d'unité plutôt que de division, à un moment où les efforts se multiplient pour ramener une paix durable dans la province.
Je vous donne l'exemple du territoire de Mahagui, où les habitants se disputaient autour de 10 sources d'eau. Ils ont fini par comprendre qu'il était juste et équitable que chaque personne bénéficie de cette eau. Ils se sont retrouvés autour d'une table pour régler les problèmes et militer ensemble afin d'augmenter le débit.
Une vingtaine de personnes membres de différentes organisations de la société civile ont pris part à cette matinée d'échange au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des décideurs. Parmi celles-ci, retenons l'accès à l'eau potable pour tous et lutter contre sa pollution. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
À Kinshasa, les quartiers anciens combattants dans la commune de Ngaliema se distinguent par un fait. Elle fait face à une montée inquiétante de la consommation des drogues chez les jeunes. Entre insécurité et inquiétude des familles, les habitants qui dénoncent ce fléau qui prend de l'ampleur appellent à une réaction urgente des autorités. Reportage de Jérémy Baraka rendu par Esther Mamboté.
Dans ces quartiers de la capitale, ce phénomène se développe dans plusieurs zones peu surveillées, notamment au marché DGC, à Kiba, dans des chantiers abandonnés ou encore dans des épaves des véhicules le long de la route. Sur place, les habitants décrivent un quotidien de plus en plus difficile.
Il y a des jeunes inconscients qui peuvent vous ramasser les choses. et ça nous met dans l'insécurité. Nous avons plusieurs jeunes qui brutalisent les gens à partir de 19h-20h.
Une fois qu'ils se droguent, et même se bagarrent d'abord, et là où ils se bagarrent, la population s'est exposée.
L'un d'entre eux avait pris le couteau et a enfoncé l'autre au niveau de l'épaule et sur la figure.
J'étais victime quand j'ai passé dans les marchés et ils ont eu à prendre ce qui était à moi, téléphone, l'argent et porte-monnaie.
Les responsables de la police nationale congolaise de ce coin de la ville disent reconnaître la situation. Des opérations d'arrestation sont régulièrement menées contre les consommateurs et les vendeurs. La police appelle toutefois la population à collaborer davantage. Contacté, les chefs du quartier ancien combattant s'est réservé de tout commentaire. Face à l'ampleur du phénomène, plusieurs observateurs plaident pour une réponse coordonnée entre autorités, forces de l'ordre et communautés afin de protéger les jeunes et rétablir la sécurité dans cette partie de la ville.
Actualité internationale.
Selon des informations publiées dans la presse mauritanienne et confirmées à RFI par des sources sécuritaires mauritaniennes et maliennes, une patrouille de l'armée malienne a fait irruption mercredi 25 mars au matin dans plusieurs villages de la commune de Gogui dans la région de Oued El Garbi, une zone où la démarcation de la frontière entre les deux pays n'est pas clairement délimitée. Cette intrusion fait suite à plusieurs épisodes suscitant depuis une dizaine de jours une forte tension entre le Mali et la Mauritanie que Nouakchott tente de contenir.
L'invité.
Modeste Bahati Lukwebo a été destitué de son poste de président national et autorité morale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo par un groupe de cadres du parti le mercredi 25 mars 2026. Par la même occasion, Otto Baizi a pris le rêne pour gérer la transition jusqu'au prochain congrès. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi ont analysé cette situation qui prévaut au sein du parti politique FDC. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Jean-Claude Poukouta, vous êtes avocat et secrétaire général adjoint de l'AFDC en charge des questions juridiques. Vous soutenez Modeste Bahati Lukwebo. Comment vous réagissez à cette décision prise par un groupe de cadres de l'AFDC destituant le sénateur Bahati Lukwebo de son poste de président national et autorité morale de l'AFDC?
Vous savez que l'AFDC a tenu son congrès récemment le 15 mars. Il y a 11 jours, ici à Kinshasa, à l'hôtel Béatrice. Et au cours de ce congrès, M. Otto Baizi a participé comme congressiste, ainsi que la plupart des personnes qui l'entouraient dans les déclarations. Donc ça a été pour nous une surprise de constater que le 25, M. Otto Baizi va s'autoproclamer président de l'AFDC, faisant fonction. Et ils vont décréter une transition, je ne sais pas de quelle manière.
Ceux qui l'ont destitué disent qu'il y a eu divergence de vue avec lui par rapport justement à cette question liée à la Constitution.
Non.
Ils disent qu'il y a divergence de vue.
Il n'y a pas divergence de vue parce que la question n'est pas à l'ordre du jour. Donc c'est que le président Modeste Bahati Lukwebo a émis un avis qui ne concernait que sa propre personne et qui n'est pas contraire parce qu'il n'a jamais dit qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Il a dit s'il y a des questions liées à la modification, qu'on mette sur la table, qu'on discute. Et lui n'est pas opposé à la modification. Mais il ne connaît pas les changements. Il a dit les changements de la Constitution, ça il ne connaît pas. Mais au moins la modification, s'il y a des questions, et qu'on mette sur la table et on en discute.
On lui reproche aussi sa gestion opaque du parti. Comment vous réagissez à cela?
Oui, d'abord le frondeur. Et même d'abord, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils tentent de destituer de manière abusive
le président. Gestion opaque du parti.
Parce que la gestion opaque du parti signifie quoi? Parce que le parti fonctionne de manière démocratique chez nous. Nous avons des organes qui sont là. Et les décisions sont prises par les organes concernés du parti. Donc, M. Modeste Bahati Lukwebo n'est pas là pour prendre des décisions de manière inique.
Quand vous essayez de réfléchir à cette situation, vous ne vous posez pas la question de savoir qui pourrait être en train de tirer les ficelles?
Bon, nous n'allons pas soupçonner les tireurs de ficelles, parce que jusque-là, nous ne connaissons pas qui tire les ficelles, mais nous le voyons, lui, en train de divaguer, en train d'agir, et de la manière dont il agit. Et il oublie que l'AFDC avait connu la même situation il y a de cela plusieurs années, en 2020. nous avons connu une fronde avec Nene Nkulu qui s'était autoproclamé, hein, avec Djanga qui fut notre secrétaire général. Mais où est-ce qu'ils ont fini? Il y a eu des actions judiciaires. Ils ont été condamnés, arrêtés. Il y en a qui ont même foué.
Merci, Itiel Batoumike. Vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Quelle lecture vous faites de cette situation qui prévaut au sein du parti politique AFDC?
Cette situation n'est pas nouvelle. C'est une situation qui est déjà vécue, comme venait de le rappeler le co-débatteur. En fait, c'est une situation qui n'est pas inédite. En 2019, lorsque Bahati Lugwebo avait s'était opposé à la décision du FCC, on a vu qu'il y a eu cette tentative réussie à cette époque de dédoubler son regroupement politique, la FDC, et il y a eu des élus qui étaient restés dans le FCC et d'autres qui ont finalement acquis le statut de non-inscrits à l'Assemblée nationale, restant fidèles à Bahati Lugwebo.
Etienne, vous rappelez que 7 ans après, la même situation se répète. Peut-on dire qu'on n'a pas tiré les leçons de l'histoire?
Je pense qu'on n'a pas, tiré les leçons de l'histoire, mais aussi dans la manière dont les débats sont organisés au sein du parti politique. Et je pense que cette personnalisation des partis autour de leurs leaders est aussi problématique. Pourquoi je l'ai dit? Le co-débatteur a beau de pouvoir dire ici que leur parti est démocratique et que l'opinion qui a été émise par le président de l'AFDC était à titre personnel, mais on va constater quand même que répondant sur une question de ses affaires privées, il est allé faire la conférence de presse au siège de l'AFDC. Je ne vois pas quel était le rapport entre les accusations qui étaient portées contre Bahati Lugwebo et les sièges de l'AFDC. Donc le problème part de là aussi. On a des leaders politiques qui confondent les partis politiques à leur boutique personnelle.
Vous pouvez suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à cette édition du journal préparée pour vous par Lievin Mbouinga-Voubou et mise en onde par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.